Professeur Edmond Jouve, bonjour.
Bonjour.
Pendant 40 ans, vous avez apporté vos conseils de juriste sur le continent africain. Quels sont les pays où vous pensez avoir laissé une empreinte ?
Il y a essentiellement le Burkina Faso, puisque j'ai aidé à faire la constitution qui est encore en vigueur. Une constitution d'ailleurs qui a été faite en partie dans mon village, figurez-vous. Un Nadaïek de Rouge. Un jour, on mettra une plaque.
Dans le sud-ouest de la France.
Absolument. Ensuite, alors là, j'ai proposé d'instituer une deuxième chambre, un Sénat, et à partir de là, toute une série de pays qui n'osaient pas faire cet ajout à leur constitution l'ont fait en disant « il n'y a pas de raison que nous, on n'ait pas de Sénat ». Alors, en vérité, il faut dire que cette deuxième chambre, aujourd'hui, on est en train de la supprimer ici ou là.
Oui, parce que beaucoup considèrent que c'est un luxe dans un pays pauvre.
Absolument. C'est d'ailleurs ce qu'on m'avait dit, mais je crois que ça a rendu service à un moment donné, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes au Burkina à résoudre. Le président m'avait fait appeler, il m'a dit « j'ai des problèmes avec les anciens chefs d'État, avec les femmes, avec beaucoup de monde ».
Qu'il fallait caser quelque part.
Et ben voilà. Alors ensuite, ici ou là, évidemment, au gré des étudiants que j'avais formés, j'ai donné des conseils pour l'Afrique du Sud, même la Namibie, la Mauritanie, le Togo, enfin.
Mais dans des pays comme le Togo ou la Corée du Nord, est-ce que vous n'avez pas apporté surtout vos conseils à des régimes fâchés avec la démocratie et qui voulaient ravaler leur façade ?
Il y a toujours un risque. Mais celui qui m'a défendu, eh bien c'est celui qui a fait la préface de mes mémoires, Passeurs d'avenir, c'est François Hollande, qui m'a dit, mais au fond, on vous reproche quelquefois d'aller dans ce type de pays où les autres ne vont pas, mais vous ne faites que votre travail de juriste, d'observateur, de politiste. Et moi, je crois que j'ai un peu aussi permis que ces pays soient un petit peu plus ouverts sur le monde. Par exemple, en Corée du Nord, en effet, où j'ai fait 17 voyages. Il est vrai que je suis allé un peu partout où on m'a dit d'aller, et je n'ai pas fait de refus, sauf une question de principe pour le Chili de Pinochet. À un moment donné, j'ai dit, je n'irai pas. Et puis, sauf aussi pour l'Afrique du Sud.
Du temps de l'apartheid.
Du temps de l'apartheid. J'ai dit, je viendrai lorsqu'il n'y aura plus d'apartheid.
Edmond Jouve, vous n'êtes pas le seul constitutionnaliste qui a œuvré en Afrique. On pense notamment à Charles de Bâche, au Togo.
Bien sûr.
Du coup, vous avez mauvaise presse. Dans son livre « Les sorciers blancs », enquête sur les faux amis français de l'Afrique, notre collègue Vincent Hugeux vous appelle, de Bâche et vous, les mercenaires en col blanc.
Oui, et les mercenaires, ça voudrait dire qu'on a des sous. Mais là, il me rend quand même justice à la fin en disant de mon Jouve, personne n'a dit jamais qu'il était un homme d'argent. Non, nous allons aider dans la mesure où on nous demande de le faire. Et puis voilà, alors est-ce que finalement ça ravale, etc. Bon, je n'irai pas jusque-là, je crois que ma modeste personne ne suffirait pas à cela. Mais c'est vrai que la question s'est posée plus d'une fois.
N'avez-vous pas fait le lifting constitutionnel d'un certain nombre de régime pas très recommandable.
Bon, on a parlé à un moment donné de la Tunisie.
De Zine El Abidine Ben Ali.
Oui, j'ai donné des avis, gratuitement, contrairement à ce qu'a dit un autre journaliste, qui était le fils d'un ami, et qui travaillait à l'époque au Connard Enchaîné.
En fait, vous avez plus voyagé et prodigué vos conseils par idéalisme tiers-mondiste
que
par appât du gain.
Ah non, l'appât du gain, vous savez, il n'y en a pas beaucoup dans ce genre d'affaires.
Dans votre livre, Edmond Jouve, vous dites que vous êtes allé 20 fois en Libye à l'invitation du colonel Kadhafi, et aujourd'hui encore, vous écrivez que vous avez été impressionné par son magnétisme, son charisme, mais n'a-t-il pas massacré des milliers d'opposants ? N'a-t-il pas violé des centaines de jeunes femmes dont beaucoup ont témoigné depuis sa chute ?
Oui, certainement qu'il y a des reproches de ce genre à faire, mais j'étais guidé un petit peu par la même chose. Il me demandait de donner des avis sur la Constitution qu'il avait envie de refaire. Il m'a envoyé sa fille comme étudiante en doctorat.
Aïcha, la
jolie Aïcha, oui, à la Sorbonne, oui, et elle a travaillé de manière très sérieuse, et voilà. Alors, c'est ainsi que je suis. Les observations dont vous faites l'écho, je les connais parfaitement, et on dit que je suis idéaliste, que je suis tiers-mondiste, que je suis ceci et cela. C'est un peu une réponse, le titre de mes mémoires, Passeurs d'avenir. J'ai eu le souci d'ouvrir quelques voies nouvelles, et des voies nouvelles avec les pays qui sont les plus défavorisés, les pays du tiers-monde.
En juin 2011, en pleine guerre de Libye, vous vous rendez une dernière fois à Tripoli en compagnie du professeur d'extrême droite Jean-Claude Martinez et de l'avocate Isabelle Coutant-Père, l'épouse du terroriste Carlos. Est-ce que ce tiers-mondisme que vous revendiquez ne vous a pas amené à fréquenter des gens qui sont à l'exact opposé de vos convictions ?
Absolument. On dit que c'était une délégation un peu éclectique, un peu étrange. bien entendu, est-ce qu'il fallait y aller, est-ce qu'il fallait pas y aller. Moi, j'ai estimé qu'il fallait y aller, et voilà.
Est-ce que, pour le soutien de Kadhafi, vous n'avez pas accepté de fréquenter des gens qui étaient à l'opposé de vous-même ?
Oui, mais je n'ai pas soutenu Kadhafi. Moi, je vous mets au défi de trouver des textes de soutien à Kadhafi.
Vous avez quand même écrit, en 2004, Muammar Kadhafi dans le Concert des Nations. C'est oui. Un livre qui rend hommage à l'action politique du numéro un libyen de l'époque, non ?
Oui, si on veut, mais je crois avoir contribué, dans ce cas particulier, à le remettre un peu dans le... Je ne sais pas si d'ailleurs nous avons bien fait, ça lui a coûté cher, mais à le remettre dans la communauté internationale. Et alors évidemment, lui-même ne s'est pas trop méfié et ça lui a coûté sa vie. Non, moi, durant toute ma vie, j'ai essayé dans ces livres que vous évoquez de le montrer, j'étais mû par la curiosité, par essayer d'aller voir sur place ces gens dont on parlait.
Et dont on parlait mal. Vous aviez...
Et dont on pouvait parler mal, oui.
Vous êtes un anticonformiste, en fait.
Oui, je pense que je l'ai montré. Alors, au début, ça ne m'a pas toujours aidé dans ma corporation, vous en doutez.
Dans la corpo des profs de droit.
Absolument, c'est ce que je voulais dire. Mais finalement, à la fin des fins, on a estimé que, au fond, j'étais aussi fréquentable que d'autres.
Muammar Kadhafi, Blaise Compaoré, est-ce que vous ne vous êtes pas mis au service des perdants de l'histoire ?
Ben oui, je me suis mis au service, si on veut, de ceux qui ont été renversés, mais d'autres aussi ont été renversés, ou d'autres le seront. Et je me souviens, vous voyez, le compliment le meilleur quand j'ai fait mon dernier cours, en 2005. Je sortais de l'amphithéâtre d'Elbar, Université Paris-Descartes, et je vois une étudiante qui me croise et me dit « Monsieur, je voudrais vous remercier ». Ben, j'ai dit « C'est gentil, mais me remercier pourquoi ?» Elle m'a dit « Votre cours, on voit que vous parlez de choses que vous connaissez ».
Vous avez été un prof de terrain.
Oui, un prof de terrain. Je suis allé voir sur place. Et c'est pas en allant voir qu'on souscrit au régime en place. Non. Et tout ça est arrivé à ce petit élève de l'école publique de Nadaillac de Rouge. Récemment, le président François Hollande a bien voulu reconnaître que j'avais rendu des services éminents, entre guillemets, à la République. Et m'a remis la plus haute distinction, la Légion d'honneur, c'est-à-dire m'a fait commandeur. D'autres certainement méritaient autant que moi. Mais enfin, en tout cas, j'ai eu ce témoignage et il m'a dit, pour vous, ça m'a presque arraché une larme, il m'a dit, les choses n'étaient pas gagnées d'avance. Veniez d'un petit village, une petite famille de paysans.
Oui, votre père était agriculteur.
Agriculteur, et tout cela en hommage à mes parents. J'ai voulu leur montrer que je ne désertais pas le village qui m'avait vu naître.
Dans votre carrière, vous avez rencontré à de nombreuses reprises Alpha Condé, qui est devenu depuis le président de la Guinée. Qu'est-ce que vous inspire son action politique ?
Ah, d'abord, Alpha Condé était un ami. Nous avons été professeurs assistants ensemble à l'Université Paris 1. Et il le reste. J'étais très impressionné par l'action qu'il a menée à la FEAN, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Il était, et se voulait, un grand révolutionnaire. Alors aujourd'hui, le problème se pose de savoir, évidemment, s'il va accomplir un nouveau mandat. Ça peut laisser un petit peu perplexe.
Est-ce que cette volonté d'un certain nombre de présidents de briguer un troisième mandat, ce n'est pas un mauvais coup à la démocratie ?
Mauvais coup, oui et non. La démocratie, ça ne se résume pas à une imitation de mandat. Si on est un bon président, pourquoi ne pas persévérer ? Maintenant, je reconnais que c'est mieux de faire un certain temps et ensuite de laisser la place. Ne serait-ce que parce que chacun fait un petit pas à sa manière et peut apporter des choses nouvelles au pays qu'il aspire à présider. Alors, s'il me fallait dire oui ou non, je dirais non. Il vaut mieux limiter les mandats.
Professeur Edmond Jouve, merci.